Sésame, ouvre-toi.
Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi.
Sésame, ouvre-toi. L'émission qui pousse les portes et qui trouve des pépites. Une proposition à deux voix de Camille Rizard et Marie Biou sur Radio Vassivière.
Elle utilise la détente du corps pour nous permettre d'ouvrir notre conscience.
À chaque épisode, nous partons à la découverte d'un lieu extraordinaire chargé d'histoire. L'occasion de rencontrer des personnes inspirantes qui nous ouvrent leurs portes.
Pour la séance d'aujourd'hui, nous aurons juste besoin d'une chaise. L'exercice s'appelle « S'ouvrir au monde ».
Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Ah bon ?
Épisode 1, au beau milieu. Allez, on pousse la porte. Et bonjour.
Bienvenue au sein de Beau Milieu.
Eh bien, merci. Pour ce premier épisode, nous voilà à Meymac, face à la maison Jean Guébordas. Aujourd'hui, elle abrite le tiers-lieu au Beau Milieu. Nous avons rendez-vous avec Muriel et Frédéric Vouringer qui portent ce projet. Ouvrez grand vos oreilles, nous, on ouvre la porte.
Ici, vous êtes dans un, donc vous êtes au sein d'Au Beau Milieu, qui est un tiers-lieu à visée entrepreneuriale, qui a pour objectif d'accueillir des coworkers, des télétravailleurs. Ils ont la possibilité d'utiliser les espaces pour travailler. Donc, ils arrivent avec leur ordinateur, ils s'installent dans un des espaces, et ça leur permet aussi de rencontrer d'autres personnes dans le même cas qu'eux, donc des télétravailleurs, des coworkers, et d'échanger, de se ressourcer. Il y a des idées qui se brassent, des projets qui peuvent éventuellement se créer. Et dans ces espaces, on peut aussi accueillir des entreprises, des associations, des collectivités pour des réunions, des séminaires, des formations, des activités. Alors ça, c'est plutôt la journée. Et le soir, des activités, qu'elles soient du type yoga, sophrologie, ateliers d'improvisation, ou le week-end, des ateliers de peinture intuitive, de marqueterie, voilà. Ces différents lieux vivent la journée et le soir ou le week-end.
Et pour répondre à la question de la structure, on a choisi d'être sous forme associative. D'abord parce que même si avec Muriel on était les deux porteurs initiaux du projet, ben aujourd'hui ce projet il est porté par tout un collectif sous forme d'association, parce que c'est aussi, a-t-on pensé, le meilleur moyen de donner envie à d'autres gens de nous rejoindre. Pour un tiers-lieu entrepreneurial et puis ben qui doit assurer la rentabilité de ces espaces, on aurait pu aussi prendre une structure d'entreprise, mais ça n'a pas été notre choix. Peut-être un jour évoluera-t-on vers une forme de société coopérative où les salariés, les utilisateurs et les partenaires peuvent prendre en fait des parts dans l'entreprise. C'est une des structures qui existe dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, à laquelle on se rattache, mais nous, on est dans la forme première de l'économie sociale et solidaire qui est l'association et qui permet cette gouvernance partagée, cette intelligence collective.
Souvent, je ferme les yeux, j'observe et là, ma prose explose. J'apprends à garder l'œil ouvert avec les paupières closes. Quand je les ferme, je sens léviter mes rêves. Je ne les rouvrirai que pour qu'un jour la vérité me les crève. Je
cherche un accès. En fermant les yeux, on accède à un nouvel espace, un espace intérieur, mais aussi de nouvelles perceptions de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pourquoi nous demandons à Frédéric et Muriel de fermer leurs yeux un instant, de choisir un des espaces de la bâtisse qui abrite au beau milieu, et de le décrire, les yeux fermés, avec leurs mots à eux.
Alors, je vais commencer par décrire l'espace où l'on se trouve actuellement, que j'appelle le plateau, parce qu'il faut deux marches pour y accéder. Donc c'est un plancher en bois d'une salle qui fait environ une quarantaine de mètres carrés. C'est la plus grande salle d'Au Beau Milieu, qui est entourée de murs en forme de verrières, donc ce qui est très agréable, notamment l'hiver, pour recevoir le soleil et nous chauffer. Il y a des murs, des pylônes en pierre, il y a des pylônes en métal et des murs de couleur ocre terracotta.
Je distribue les cartes de ma vie. Pourtant, je ne joue pas pour gagner. Y a pas d'argent à la fin de la partie. Jamais de gloire si on a triché.
Cartes pour jouer, bien sûr, mais aussi cartes support d'imagination, d'introspection, de réflexion. Nous déposons sur la table, devant Muriel et Frédéric, une trentaine de cartes, des cartes colorées, des cartes représentant des images très différentes. Et parmi ces cartes, nous allons leur demander d'en choisir une. Une carte qui répond à la question « Comment s'est passée votre rencontre avec le lieu ?» Si vous deviez choisir la carte qui représente le mieux, et chacun peut en choisir une.
Oui, j'imagine. Oui.
Tu veux la prendre ?
Non, mais c'est celle-ci qui me parlait aussi. Donc j'ai choisi une carte qui représente un vieux livre qui est assez important. Et sur la couverture du livre, il y a un château, en fait, avec des tourelles et une tour. Et une grande porte qui est à moitié entr'ouverte avec une lumière jaune qui de l'intérieur qui apparaît. Et une vieille dame qui se dirige vers ce livre avec cette couverture qui représente un château et trois marches qui sortent un petit peu de cette couverture. Alors cette carte m'a attirée parce que effectivement, au beau milieu se situe dans une bâtisse qui date de 1886 et qui a trois tourelles et une tour. Donc c'est une bâtisse qui fait plus de 15 mètres de haut, entre 15 et 20 mètres de haut. Donc elle a ces trois tourelles et cette tour et que j'ai retrouvée en fait dans cette couverture. Et elle a une porte qui était abîmée par presque 150 ans de vie, qui vient d'être refaite à l'identique et financée par presque 60 donateurs dans le cadre d'un financement participatif. Et cette porte, en fait, elle est là. La collaboration de toutes ces personnes qui ont participé à son financement et qui ouvre en fait sur une nouvelle histoire de la bâtisse et une nouvelle histoire au travers d'Au beau milieu. Donc voilà, donc cette carte m'a fait me rappelle l'histoire de la bâtisse. Après cette vieille dame qui se dirige, peut-être que dans ce château, une fois qu'elle aura traversé cette porte, peut-être qu'elle va se transformer, se ressourcer, être une nouvelle personne, avec une nouvelle vie, que sais-je.
Une belle princesse coworkeuse.
Une belle princesse coworkeuse, une reconversion réussie, on peut tout imaginer.
Et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as vu cette bâtisse, comment s'est passée cette rencontre?
Cette bâtisse, ben voilà, je la connaissais en visitant Mémac comme d'autres lieux à Mémac, et en fait à la base on cherchait à louer, on ne cherchait pas du tout à acheter, et il s'avère que lors d'une visite de Mémac avec des amis, on s'est approché pour la première fois vraiment de cette bâtisse jusqu'aux fenêtres, et c'est là que l'on a vu que les fenêtres, à travers les fenêtres, que les espaces étaient vides. Et Frédéric et moi, on s'est regardé à ce moment-là et on s'est dit mais c'est incroyable, c'est l'espace qu'il nous faut, parce qu'on ne trouvait pas d'espace de 100-150 mètres carrés à louer sur Haute-Corrèze. Et voilà, donc ensuite, on est rentré, on a visité les espaces où on se trouve, et on s'est dit qu'effectivement, c'était là. Donc ça a été un coup de cœur, ça a été une révélation, et en même temps, ça a été la bâtisse qui nous a attirés aussi. Mm-hmm. Parce que pourquoi ce jour-là, on s'est dirigé jusqu'aux fenêtres. Mm-hmm. De part et d'autre, on était chacun de part et d'autre de la porte d'entrée, alors que auparavant on s'était jamais approché de cette bâtisse, on la regardait toujours de loin. Mm-hmm. Donc voilà, elle nous a attirés au moment où on avait besoin d'elle et peut-être elle de nous.
C'est vraiment une rencontre. On peut vraiment parler de rencontre.
Ouais. Ouais, exactement.
Alors moi j'ai une carte avec trois clés. Qui sont de couleur dorée, marron. Il y en a une qui est en bois. Ça doit être une clé, ça ressemble quand même à une clé. Et puis deux autres qui sont en métal. Pourquoi est-ce que cette carte m'a attiré? Ben parce que c'est l'histoire que raconte Muriel, elle est tout à fait vraie. On pourrait dire qu'elle est belle, mais en même temps, nous, ce qu'on voulait, c'était faire un tiers-lieu. On voulait juste 100 mètres carrés à louer. Et là, les circonstances ou l'état du parc immobilier en Haute-Corrèze, c'est selon, nous a amené à acquérir cette bâtisse dans son ensemble, puisqu'elle était à vendre dans son ensemble. Donc avec tout un tas de pièces, d'étages, de portes et de clés. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui a très peu de sens de la propriété. Moi, j'ai une clé dans mon portefeuille pour toute ma vie. C'est la clé de porte d'entrée de notre maison. Et donc, alors que Muriel s'est retrouvée avec un trousseau de clés à côté de ça, le trousseau de Saint-Pierre, c'est du Mickey. Donc, il était voilà. Ça veut dire, c'est derrière aussi tout ce que ça suppose de charge mentale aussi, mmh. D'hériter d'un bâtiment comme celui-là. Qui en plus a une histoire. Alors on y reviendra peut-être, mais c'est génial de pouvoir quand on arrive avec un concept un petit peu perché en Haute-Corrèze, en tout cas où c'est le premier comme un tiers-lieu, de pouvoir s'ancrer dans l'histoire dont on parlera de cette bâtisse et qui est l'histoire de la région. Mais ça suppose aussi d'hériter d'une comme je le dis parfois d'une vieille grand-mère qui est peut-être celle finalement qui est sur la carte de Muriel, qui a 150 ans, qui a toutes ses dents, mais il y en a qui sont un peu déchaussées. Donc quand il pleut un peu fort, ça pleut dans la bâtisse, les clés, on sait jamais quelle clé est à qui. Et puis quand on monte dans les tourelles dont parlait Muriel, on trouve 150 ans de fientes de pigeons fossilisées. Donc c'est peut-être les ailes, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que ces clés, elles ont des ailes. Donc c'est plutôt des ailes de libellules que des ailes de pigeons, mais on a quand même charrié un certain nombre d'ailes fossilisées de pigeons, pas seulement les fientes, pour essayer de dégager le chemin vers les statues qui sont dans les tourelles, dont on dit que ce sont les statues de Vénus et de Bacchus.
Et au départ, quand vous cherchiez un lieu pour ce projet, vous n'aviez pas spécialement en tête un lieu historique, enfin de trouver un lieu. Okay, donc ça s'est imposé aussi avec ce lieu-là.
Oui, ça s'est imposé. En fait, on a deux projets quelque part. Il y a le tiers-lieu qui est le projet principal, et à côté, il y a cette bâtisse en fait qui s'inscrit dans une histoire, dans l'histoire de Mémac près Bordeaux. Qui s'inscrit donc dans l'histoire des Mémacois, qui est un espace, une bâtisse qui de l'extérieur est visitée, enfin est vue, est photographiée, etc. L'office du tourisme passe par cette bâtisse pour raconter l'histoire de Mémac et de Mémac près Bordeaux. Donc on hérite, j'aime pas le mot héritage, on est passeur de cette histoire. On s'inscrit dans la maintenance de cette bâtisse en fait. Donc on a le projet de cette bâtisse en plus à gérer. Mmh.
Ouais. Voilà, même si ça se rejoint, parce qu'effectivement, par rapport aux entreprises, par exemple, alors peut-être moins les coworkers, mais par rapport aux entreprises, les convaincre de venir utiliser les espaces, c'est aussi leur donner la possibilité de sortir du lieu habituel de l'entreprise et pour être dans un lieu là pour le coup complètement inhabituel, dont certains connaissent l'histoire, dont d'autres sont intéressés à l'apprendre, et donc finalement cette bâtisse devient notre allié aussi pour notre politique de commercialisation des espaces. Donc tout le temps qu'elle nous prend pour l'entretenir, elle nous le rend aussi quelque part en nous aidant dans notre projet de tiers-lieu.
Oui, puis elle est très bien située, cette bâtisse, par rapport à,
oui,
emplacement dans Meymac.
Elle est effectivement située dans le bourg de Meymac, facilement accessible. Et puis Meymac est aussi située entre Égletons, Ussel, Neuvic, Bugeat. Donc on est au cœur, je dirais, de la Haute-Corrèze. Oui, 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 tout à fait. Oui.
Alors, si elle est située sur la place de l'église, c'est cette maison qui a été construite par Jean Guébordas, qui était l'inventeur, entre guillemets, du commerce du vin de Bordeaux vers le nord de la France et la Belgique. Donc, un Corrézien très pauvre qui était de Davignac, qui est parti enfant sans père, ou alors selon les mauvaises langues c'était le fils du curé, et qui est parti à travailler à Bordeaux, enfin qui a émigré comme beaucoup de Corréziens, qui a eu cette idée géniale pas dans sa prime jeunesse, mais alors qu'il avait une quarantaine d'années, de commercialiser ce vin de Bordeaux dans une région où il ne le connaissait pas. Et en fait, à l'époque où c'était la révolution industrielle en Belgique, et où les bourgeois belges étaient très embêtés de boire la même bière que leurs ouvriers, et avaient besoin de se distinguer, et il leur a proposé du vin de Bordeaux. Voilà, il a fait fortune, on pourra revenir sur les détails, parce qu'il a fait fortune, mais ensuite, avant de faire faillite un certain nombre de fois et de refaire fortune, mais en tout cas, cette bâtisse, elle a été vue un petit peu comme une revanche, c'est-à-dire que il a acheté une parcelle sur le qui faisait partie à l'origine dans l'ancienne abbaye, et il a construit cette espèce de bâtiment complètement fantasmagorique, parce que c'est tourelles, Vénus, Bacchus, ça s'inscrivait pas dans quoi que ce soit comme histoire locale, même si ça a une forme simili médiévale, et c'était un petit peu sa revanche de regarder, j'ai réussi, voilà, vous m'avez regardé de haut, ben moi j'ai fait fortune, et voilà comment je vous le montre. Donc c'est pas par hasard aussi que cette bâtisse est en plein visible aux yeux de tous, mais quelque part aussi on s'inscrit dans on se dit que si Jean Guébordas a pu avoir cette idée complètement saugrenue de vendre du vin de Bordeaux, même pas de Corrèze, parce qu'il y avait pas de vin de Corrèze à l'époque à des Belges, et qu'il a réussi, ben on peut peut-être aussi réussir avec un tiers lieu au cœur de la Haute-Corrèze.
Et c'est quel lien vous faites entre cette histoire, du coup, et votre projet aujourd'hui?
Une réussite entrepreneuriale, enfin réussite, non, pas forcément réussite, mais le fait qu'il ait eu, Jean Guébordas a eu une idée complètement incroyable pour l'époque.
C'était un pionnier.
Un pionnier dans son domaine. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est des pionniers dans notre domaine en Haute-Corrèze? Parce que je vais pas parler pour d'autres territoires, parce que des tiers-lieux, il y en a plus de 300 en Nouvelle-Aquitaine, aussi bien dans le monde rural que dans les grandes villes. Donc, est-ce que, effectivement, le lien que je pourrais faire, c'est d'être quelque part avant-gardiste, avant-gardiste, voilà. C'est ce qui quelque part nous a attiré aussi ici. Se dire, bah oui, il a osé à son époque, comme on ose aujourd'hui.
Ou comme il y a 40 ans, en face de nous, Caroline Bissière a osé faire un centre d'art contemporain à Meymac, ce qui était là aussi complètement perché. Et qui aujourd'hui est un centre d'art contemporain d'intérêt national et qui est vraiment reconnu.
C'est une terre propice.
C'est osé. Ouais. Le mot qui me vient, c'est osé. Uh-huh. Mm.
Et c'est un peu reflété dans les noms qui ont été donnés à la fois à l'association et puis à la bâtisse. Pour l'association, on le disait, c'est au beau milieu avec deux L. Ça, c'était un clin d'œil au plateau de Mille Vaches, mais au beau milieu, ben, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Camille, c'est l'idée d'être à la fois au centre du bourg et puis aussi au carrefour un lieu de rencontre. Et puis, pour la bâtisse elle-même, on a acquis la bâtisse sous forme de société civile immobilière. Et on l'a appelé la SCI, donc la société civile immobilière qui est propriétaire de la bâtisse, on l'a appelé Dar es Salaam. Dar es Salaam étant la capitale économique de la Tanzanie, en Afrique de l'Est, qui est un pays dans lequel on a vécu pendant 6 ans, et qui veut dire en swahili havre de paix. Alors, il y avait sans doute un petit côté provoque en Haute-Corrèze d'avoir un panneau de chantier avec marqué Dar es Salaam dessus, mais c'est aussi cette idée de ressourcement qu'on retrouve là.
Mais on le ressent en tout cas quand on est installé ici. Ouais. Est-ce que vous auriez envie de nous faire visiter un petit peu, peut-être qu'on part un petit peu en balade.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Avec plaisir.
Ah oui, là, faut prendre le trousseau de Saint-Pierre, là.
Là, c'était pas le...
Dernière. Il y a une sorte de trompe-l'œil sur le haut de la façade. Donc, on voit que, et c'était sans doute ça sur toute la façade, ça simulait des sortes de pierres de taille, hein, alors que c'est derrière, c'est juste probablement de la brique avec un crépi dessus. Mais histoire de poursuivre l'illusion du château du Bordelais, si on allait un petit peu sur la gauche, on verrait une échauguette, là, complètement en brique. Donc là, voilà, c'est encore une fois le fantasme médiéval. Voilà cette façade qui maintenant accueille aussi l'enseigne de Beau Milieu.
Donc là, on passe par les sous-sols du bâtiment, les coulisses. Et on débouche sur un petit jardin.
Alors voilà, on a un jardin qui fait 200 mètres carrés, qui est vierge de tout arbuste, c'est juste de la pelouse, et on est en train de travailler sur un projet de réaménagement de ce jardin. Il va y avoir une pergola dans un coin du jardin pour accueillir toujours pareil, hein, nos utilisateurs, pour qu'ils puissent avoir un espace pour se détendre au printemps, en été, automne, quand le temps le permettra. On va installer des arbustes pour l'agrémenter, peut-être un ou deux arbres fruitiers, et puis surtout on va installer 2 rangées de vignes pour rappeler l'histoire de Meymac près Bordeaux, qui vont se situer le long de ce mur. Donc on va avoir peut-être entre 8 et 10 pieds de vignes.
En tout cas, c'est un bel espace, ce petit jardinet. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il est pas occupé, quoi. Il est assez vide. Mais je trouve qu'on se projette, on imagine bien le potentiel et puis là, c'est très agréable avec le rayon de soleil aussi, de ce côté du bâtiment.
Comment faites-vous cela?
C'est un tapis volant.
Il est magnifique.
Est-ce que ça vous dirait d'aller faire un tour?
S'envolant, le tapis volant, s'en va survolant les monts, les plaines. S'envolant, le tapis volant, s'en va survolant les continents.
Donc là, on va vous inviter à prendre un peu de hauteur, à nouveau vous recentrer. En fait, c'est comme si vous étiez sur un tapis volant, un oiseau, quelque chose qui prend de la hauteur, justement, et que vous preniez du recul par rapport à toute votre vie, on va dire de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, et que vous laissiez remonter les temps forts qui font que aujourd'hui vous êtes ici, au beau milieu, dans ce projet. Donc c'est pareil, toujours intuitivement, laisser remonter, comme ça, les temps qui viennent, qui apparaissent, qui vous semblent importants. Ça peut être des événements, des décisions, des rencontres.
Pour moi, le fait marquant qui est tout de suite monté, c'est venu à ma mémoire, c'est Bordeaux. Bordeaux, où on a passé 10 ans de notre vie. Et en s'installant à Bordeaux, avec des enfants petits, qui n'avaient pas de racines en France, parce que on avait passé beaucoup d'années, enfin pas mal d'années à l'étranger. Et Bordeaux nous a rapprochés de la Corrèze et de ma propre histoire familiale avec une maison de famille que l'on a investie pendant toute cette période à Bordeaux. Et quand on était, quand j'étais ici avec les enfants, ils ont eu plusieurs fois l'occasion de faire des petites sessions de cheval à Mémac, et je voyais ce panneau sur le rond-point des Manoux, Mémac près Bordeaux, et je me disais waouh, on est vraiment proche de Bordeaux ici, on crée nos racines en Corrèze, on se relie à cette nature qui est très puissante ici, ces forêts, cette terre qui est très puissante, et moi ça m'apportait beaucoup en fait. Donc voilà, donc le lien il était déjà là en fait, il s'était déjà créé il y a quelques années quoi, sans en avoir aucune conscience.
Et pour moi, ça, en remontant encore un petit peu plus loin dans notre histoire, c'est le fait d'être tombé amoureux de la Corrèze en même temps que de la Corrézienne, enfin un petit peu après quand même historiquement, et effectivement d'avoir eu envie de s'installer d'abord dans ce territoire, et puis ensuite de lui rendre un petit peu de ce qui nous avait apporté dans notre histoire familiale, et c'est tout le sens aussi de ce projet qui, et c'est pas un hasard, permet aussi d'accueillir des gens qui comme nous ont eu le coup de foudre pour un territoire qui est préservé, qui certes est un peu enclavé, certes parfois un petit peu figé dans le temps, mais qui ne demande qu'à bouger, qu'à imaginer des nouvelles choses comme Jean Guébordas a pu les imaginer à son époque.
Oui, une question qui me vient du coup, est-ce que le fait de travailler en couple, c'est quelque chose de particulier? Qu'est-ce que vous retirez aussi de ça? Est-ce que vous l'avez déjà fait déjà? Est-ce que c'est la première fois ou pas? Et qu'est-ce que vous retirez de cette expérience?
On l'a déjà fait puisqu'on s'est rencontrés en tant que collègues.
À l'époque, on travaillait dans l'humanitaire, à l'étranger, et on l'avait pas fait effectivement depuis 25 ans, oui.
Donc particulier n'est pas forcément le mot. Rock'n'roll serait peut-être plus.
Oui, c'est ça. Faut s'ajuster en permanence.
À ce moment-là de notre discussion, on s'est dit qu'il était temps de poser nos deux dernières questions.
Si vous résumiez votre projet en trois mots, ça serait quoi ces trois mots?
Alors moi je dirais les trois mots, c'est facile, c'est « au beau milieu ». Et alors le haut, je vous épargnerai l'explication. Beau parce que on en a suffisamment parlé. On se trouve dépositaire d'une bâtisse qui fait partie du patrimoine de la région, avec tout ce que ça suppose de contraintes, mais aussi d'apport au projet. Et milieu, donc avec deux L comme le plateau de Mille Vaches, mais parce que on a eu un petit clin d'œil d'un locuteur d'Occitan, donc quelqu'un d'ici qui nous a dit mais en fait les gens croient que plateau de Mille Vaches c'est parce que c'est les mille sources, au sens il y a tout un tas de sources, alors qu'en réalité en Occitan le milieu, mille avec deux L, c'est le milieu justement, c'est-à-dire que le plateau de Mille Vaches, c'est celui qui est au milieu des sources. Donc, sans le vouloir, parce que c'est pas mes notions d'Alsacien qui m'auraient donné quoi que ce soit comme lumière sur l'Occitan, sans le vouloir, on a retrouvé, en choisissant ce nom d'au beau milieu, l'étymologie du plateau de Mille Vaches.
Alors, les trois mots qui me viennent, c'est ressourcement, entraide et convivialité. Ressourcement parce que c'est un espace où ressourcement, entraide, bon, se rejoignent aussi, mais c'est l'idée que dans cet espace-là, eh bien, on sort de son isolement, on fait collectif, on peut s'appuyer sur d'autres personnes qui ont des connaissances que l'on n'a pas forcément et transmettre ses propres connaissances. On peut s'entraider, se ressourcer, et puis convivialité parce que c'est un lieu qui peut amener à de la d'être bien ensemble, d'être dans la convivialité, c'est les trois mots se rejoignent en fait. C'est vraiment cette idée là de faire ensemble, de faire collectif et dans la joie, dans la bonne humeur, quoi. Et éviter l'isolement et avancer ensemble.
Et ce lieu, dans 5, 10, 20 ans, il ressemblera à quoi ?
Ça me fait sourire, mais moi je vois beaucoup de monde ici. Beaucoup de gens qui gravitent autour de ce lieu, qui peut-être aura une taille, une forme différente. Il sera peut-être plus grand, mais avec comme un spot en fait, un spot où les nouveaux arrivants viennent ici, viennent chercher de l'information, viennent travailler, viennent se ressourcer, etc. quoi. Je le vois comme ça.
Alors moi, 10 ans, c'est à peu près le temps qu'il va me falloir avec une mini-pelle pour retourner tout le jardin et trouver le trésor de Jean Guébordas pour pouvoir, dans 20 ans, refaire la façade, refaire peut-être le trompe-l'œil tel qu'il était à l'origine, et puis peut-être aussi chauffer la bâtisse avec du bois déchiqueté, donc une solution beaucoup plus écologique que le gaz de ville qu'on a aujourd'hui, qui est déjà pas mal, mais... de pouvoir utiliser les ressources locales pour chauffer cette bâtisse.
Donc un avenir, on va dire un point de repère, un phare pour les nouveaux arrivants sur ce territoire et pour les habitants, et puis un avenir orienté vers la transition écologique.
Éventuellement, ouais, éventuellement. Ouais. On imagine même si c'est encore embryonnaire pour le moment, que ce lieu puisse abriter à terme ce qu'on appellerait un centre de ressources et de formation. Les formations qu'on va commencer avec les entreprises en son démarrage, mais que ça puisse être ouvert aussi aux citoyens et qu'ils puissent échanger sur des sujets qui sont des sujets essentiels qui sont des enjeux essentiels pour le territoire, la mobilité, l'habitat, l'eau, la forêt, osons-le, et que dans ce lieu neutre, dans ce tiers-lieu qui soit en quelque sorte un lieu tiers, c'est-à-dire un lieu où les gens puissent échanger sans forcément se taper dessus, alors que ce sont des enjeux qui sont parfois très très polémiques, que le tiers-lieu puisse servir de lieu tiers où les gens échangent et construisent ensemble l'avenir du territoire.
Un lieu tiers où se construit l'avenir du territoire, c'est tout ce que nous souhaitons à l'association Au Beau Milieu. C'était Sésame Ouvre-toi, merci pour votre écoute. À bientôt pour de nouvelles pépites.
On refait les présentations.
Mais c'est super comme on a eu la répète.
Voilà,
c'est... Tout à l'heure, je vous posais la question.
La répète,
on le réenregistrera. Et ben en fait, oui.
Une demi-heure de répète.
Ouais. Moi, je allez-y, vous pouvez les poser, c'est marrant, ça travaillera.
Ça arrivait pas tout de suite, en fait.
Ouais, c'est ça. Je pensais à un autre.
Heureusement qu'on a prévenu que c'était test.
Ouais, mieux mon premier. Ouais.
Bon, on peut garder le premier.
Ouais, ouais.
20.
50 ans.
Oui, 30 ans.
Ouais.
C'est bon, les piles, oui, c'est bon. Tout bon.
Ah mais là, faut prendre le trousseau de Saint-Pierre. Là.
Donc l'homme est une femme, la femme est un homme. Donc Jean Guébordas était là aussi précurseur dans la fluidité de genre.
Voilà. Oui, parce que là, on s'emballe.
Donc on fait pas la cigogne.
Toi, tu t'emballes là avec les mauvaises langues.
On va être coupé au montage sur la, sur la fluidité de genre et tout.
Non, sinon je vais parler des pigeons.
Allez, bah, on est bon alors.